Merci François pour ta prière et aussi merci pour ce culte que tu as été inspiré pour le conduire. Tu nous as vraiment dirigé les yeux sur Jésus, ce qui est le plus important. Le reste, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais Jésus, c'est important. Alors on va continuer donc notre série d'études sur l'épître aux Corinthiens, et particulièrement la deuxième épître aux Corinthiens. On a un texte aujourd'hui donc qui couvre pas mal de sujets. Il y a presque deux chapitres. C'est assez long en fait et le texte semble un petit peu décousu. C'est le genre de texte qu'on lit rapidement, on fait pas bien attention parce qu'il y a des tas de choses qui arrivent. C'est pas un grand monument de doctrine comme 1 Corinthiens 15, la résurrection, il y a une thématique. Et c'est un texte assez décousu, j'ai pas mal bataillé avec ça. Parce que je voulais pas faire de la paraphrase, ça sert à rien. Tout le monde peut lire, il n'y a pas besoin de paraphraser le texte. J'ai essayé de trouver une cohérence, ça n'a pas été très simple. Et je me suis dit que pour que ce texte soit bien compris, pour qu'on comprenne l'intention de l'auteur, il fallait faire un rappel. Alors je sais qu'on a déjà fait un rappel, on a présenté 2 Corinthiens, c'était Colin. Philippe, la semaine dernière, a parlé de l'introduction, il a déjà fait un rappel du contexte. Je vais faire un petit rappel pour que vous compreniez un petit peu quel est le centre du passage. Parce que vous verrez que le message qui ressort de ce texte est un message extrêmement important, qui ne saute pas aux yeux au premier abord. Alors, si on fait un premier rappel rapidement, Paul a fondé l'église de Corinthe. On le voit dans Actes 18, il est resté 18 mois, il a structuré l'église. Et une fois que Paul est parti, eh bien, il y a eu de gros problèmes. Il y a eu de gros problèmes dans l'église, et au fond, je me suis dit, en prenant de la hauteur sur l'ensemble des épîtres de Paul, vous avez des épîtres très claires, qui sont doctrinales, l'épître aux Romains, c'est la justification par la foi, l'épître aux Éphésiens, c'est une épître circulaire d'encouragement, pour centrer les regards sur Jésus, on est assis dans les lieux célestes. L'épître aux Colossiens a été écrite pour contrecarrer des erreurs doctrinales de gnosticisme. L'épître aux Philippiens, c'est vraiment l'épître amicale, la proximité de Paul. Mais au fond, les épîtres aux Corinthiens, c'est une épître ce sont deux épîtres qui ont été écrites pour une église ordinaire. Ça pourrait être l'église Sonra. Une église ordinaire, c'est quoi? C'est une église où il y a des joies, de la louange et où il y a des problèmes. Et donc, on a vu dans 1 Corinthiens qu'il y avait des problèmes de tout genre. Et Paul, justement, quand il a quitté l'église de Corinthe, il y a des problèmes qui sont apparus. Ça veut dire que c'est quasiment normal. C'est lié à l'état pécheur de l'être humain, finalement, qui fait qu'un être humain en communauté, s'il n'y a pas des interventions spécifiques, ça dégénère, il y a des gens qui s'éloignent, il y a des tensions, il y a des tas de choses comme ça. Donc en fait, le texte d'aujourd'hui va parler de ça. Il va parler des relations entre Paul et les Corinthiens. C'est la relation entre un fondateur, un leader spirituel, et finalement une église des Corinthiens. Et c'est en ça que cette épître est extrêmement apprenante. Mais ça saute pas aux yeux quand on lit Corinthiens, c'est pour ça que je voulais vous l'éclairer sous cet angle-là. Donc Paul est parti, et il y a eu des gros problèmes dans l'église. Donc Paul va envoyer Timothée pour régler ses problèmes, on le lit dans 1 Corinthiens 4. Et puis il envoie cette première lettre aux Corinthiens, et il envoie des instructions à l'église. Et donc malgré ça, malgré cette lettre, malgré l'intervention de Timothée, les choses vont empirer et Paul est obligé de faire une visite dans la douleur. Il est à Éphèse et il le dit lui-même, il est dans la douleur, il est obligé de faire une visite. On n'a pas d'informations sur cette visite. Et notamment, il y avait des faiseurs de troubles à Corinthe. On verra tout à l'heure de quoi il s'agit. Donc il fait cette visite éclair à partir d'Éphèse, dans la douleur, il le dit, mais il n'y a toujours pas de solution. Alors, il écrit une deuxième lettre, très sévère. Cette lettre, on la connaît pas. Elle nous est pas parvenue. Il écrit une deuxième lettre qui est très sévère. Et donc la douloureuse visite. Paul en parle au premier verset du deuxième chapitre qu'on verra aujourd'hui. Et puis, cette deuxième lettre qu'on ne sait pas, finalement, elle porte ses fruits. Et Un peu plus tard, Paul va rencontrer Tite qui lui ramène des bonnes nouvelles en disant « la situation est en voie de résolution ». On le verra un petit peu de quoi il s'agit. Et donc, à ce moment-là, Paul va écrire 2 Corinthiens qu'on est en train d'étudier et il a plein de raisons d'écrire. Parce que, vous voyez, c'est une relation suivie d'un leader face à une église. Et donc, il y a eu des problèmes. Encore une fois, aujourd'hui, quand on interroge les responsables nationaux des KF, 90% des églises sont sous tension. D'accord. Donc il y a des problèmes dans l'église. C'est pas un endroit idyllique. Faut pas dire qu'une église c'est parfait, c'est le paradis sur terre, c'est le royaume de Dieu. C'est pas vrai. Une église, il y a des problèmes dans l'église. Alors soit les problèmes sont traités normalement, ouvertement, de manière transparente, soit les problèmes sont mis sous le tapis. Mais quelle que soit la nature de la réaction, les problèmes ils sont là et de toute façon il faudra les résoudre. Donc Paul va écrire 2 Corinthiens pour plusieurs raisons. Et il y a 2 raisons qu'on va étudier dans le passage du jour. Premièrement, il y a eu quelqu'un à Corinthe qui a vraiment, qui s'est opposé ouvertement à Paul, qui a causé des problèmes, qui a une personne particulièrement. Et donc Paul écrit pour demander à l'Église de pardonner à ce faiseur de troubles. Alors c'est peut-être un leader, peut-être un des anciens de l'Église, on ne sait pas. Et puis Paul va aussi se justifier parce qu'il a été extrêmement critiqué. Vous savez que les responsables sont toujours critiqués. Il y a toujours quelqu'un pour critiquer un responsable. Moi le premier d'ailleurs. Moi le premier. Même si je critique ça dans mon cœur, je critique souvent les responsables. Et Dieu, je lui en demande pardon parce que c'est pas juste. C'est pas juste. Voilà. Donc, peu importe. Donc il écrit 2 Corinthiens pour plein de raisons. Les 2 principales, on va les voir aujourd'hui, c'est demander de pardonner aux coupables et il va se justifier, il va expliquer pourquoi il a agi comme ça. Alors, quelle est la nature des troubles dont il est question? Alors, comme je vous ai dit, on sait qu'il y a des désordres dans l'Église. Dans 1 Corinthiens, on apprend par exemple qu'il y a un homme qui couche avec la femme de son père. Il y a des problèmes concernant la scène, il y a des problèmes concernant le port du voile, des problèmes concernant la prostitution. Alors à l'époque, les gens ne savaient pas très bien, parce que la culture grecque privilégiait beaucoup l'intellect et très peu le corps. Donc à l'Église, il y a des gens qui ouvertement fréquentaient des prostituées, puisqu'on leur disait le corps n'a pas d'importance, ce qui compte c'est dans ta tête, tu peux être converti intellectuellement, t'aimes Jésus-Christ, mais ton corps, tu fais ce que tu veux. Vous voyez ? Donc ça c'est un élément culturel, mais il peut y en avoir d'autres de nos jours qui peuvent aussi poser problème dans l'Église. Il y avait la question des procès entre chrétiens, je vous laisse relire 1 Corinthiens, on ne va pas revenir là-dessus. Mais surtout, Paul, et c'est ça le point important, Paul va être critiqué par ce qu'il va appeler plus tard, on verra au chapitre 11 et 12 de 2 Corinthiens, ce qu'on appelle des super apôtres. Voilà, donc, là je suis pris un peu de retard, il rédige 2 Corinthiens pour apaiser la situation et clarifier tout ça. Voilà, ces super apôtres, ce sont des chrétiens, voilà. Ils prononcent le nom de Jésus-Christ. Sauf que ce sont des gens éloquents, des gens souvent riches, qui détournaient l'évangile à leur propre gloire. Par exemple, on connaît des sites, tout pour sa gloire. Vous voyez, le mot gloire intervient souvent là. Donc, c'est des gens qui critiquaient l'apôtre Paul parce qu'ils avaient un système de valeurs tordu. Au lieu de centrer les choses sur Jésus-Christ, vous voyez, Paul était quelqu'un d'insignifiant, de petit par la taille, de pauvre, c'était quelqu'un qui souffrait, il a été énormément éprouvé. Et à côté de ça, il y avait des gens qui étaient flamboyants. On en retrouve de nos jours. L'évangile de la prospérité, c'est quelque chose de très flamboyant, quoi. Si Dieu te bénit, c'est ce que dit l'évangile, si vraiment tu es au Seigneur, Dieu te bénit, tu seras riche, tu seras bien portant, tu auras une belle bagnole de fonction, et plein de pasteurs américains sont comme ça, avec des salaires mirobolants. Donc vous voyez, ce système de valeurs tordues, finalement, avait créé, ces super apôtres sont venus dans l'Église, ils ont détourné les Corinthiens, ils ont critiqué Paul en disant « Paul, c'est un petit méprisé, il ne faut pas faire attention à lui, il n'a pas beaucoup d'importance, il n'a pas d'éloquence, il est petit, etc. Il a une écharpe dans la chair, enfin, il ne le savait pas, mais voilà. » Donc Paul est quelqu'un de pas fréquentable. Donc voilà le problème qu'il y avait l'église de Corinthe, et je pense qu'aujourd'hui, on est quand même très sujet à ça. On est très sujet à ça parce que l'évangile, c'est pas quelque chose de flamboyant, c'est quelque chose qui se vit dans l'humilité. Puisque Paul, quand il écrit aux Colossiens, il dit « Votre vie est cachée en Christ ». Et lorsque Christ paraîtra, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Donc l'évangile, c'est quelque chose de rampant, de caché, d'humble, de petit. C'est pas les méga church avec des espèces de froufrou dans tous les coins, des écrans, etc. Vous voyez ? Donc on n'est pas très loin quand même de l'époque actuelle. C'est pour ça qu'il faut comprendre ce contexte de 2 Corinthiens. Et donc parmi ces gens-là, parmi les membres de l'Église qui probablement étaient attirés par ces apôtres, il y avait quelqu'un qui a attristé l'apôtre Paul. Mais on n'en sait pas plus. On ne sait pas qui est la personne qui a attristé l'apôtre Paul. En tout cas, on sait que ces super apôtres, ben c'était destructeurs et toxiques. Vous voyez, c'était des gens qui se disaient des experts de la Bible, qui connaissaient Jésus, qui collectaient beaucoup d'argent. C'est des gens qui, c'est Canada Dry, de l'expérience, de l'extérieur, ils apparaissaient comme super chrétiens, avec des bons motifs. Probablement, ils citaient la Bible, ils la connaissaient bien, etc. Vraiment quelque chose qui jette de la poudre aux yeux. Et aujourd'hui, malheureusement, moi, avec un peu d'âge, vous voyez, je commence à avoir des cheveux bien blancs, un peu d'expérience de la vie chrétienne, de plus en plus, je sens que dans le monde chrétien évangélique, et je pèse ce que je dis, hein, je sens que dans ce monde, il y a quelque chose de cette nature qui se produit. C'est pour ça que le texte d'aujourd'hui est vraiment important. Voilà. Et donc, dans ce passage, face à tout ça, l'apôtre Paul, face à ses critiques, donc des super apôtres, relayés par des gens de l'Église, quelqu'un qui l'a attristé, eh bien Paul va devoir réagir. Mais il ne va pas réagir en disant « Ouais, il me bafoue, tu comprends, j'ai créé l'Église, moi j'ai vu Jésus-Christ sur le chemin de Damas, il m'a parlé, il devrait me respecter. » Au lieu de faire valoir ses droits, Paul va centrer les choses sur l'Évangile, sur le bien-être des chrétiens, sur le bien-être de l'Église de Corinthe. Il va complètement s'oublier et il va faire preuve de ce qu'on appelle le leadership spirituel. Ça va être un leader spirituel extraordinaire et c'est ce que ce passage va nous démontrer. C'est quoi le leadership spirituel ? Et Paul, par cet exemple qu'il va donner, par sa manière de réagir à cette situation de crise, va servir d'exemple à tous ceux qui exercent un leadership spirituel. Alors c'est qui ? Bon, bien sûr, tout de suite on pense aux anciens. Mais est-ce qu'il y a que les anciens qui sont concernés par le leadership spirituel ? Peut-être le mot leadership, d'ailleurs, vous choque. C'est un mot américain, ça ne veut rien dire. Leadership, c'est égal influence. D'accord ? C'est comment j'influe, comment j'ai de l'influence. Moi qui vous parle ici, là, j'ai une certaine influence sur vous. Elle peut être positive ou négative. Peut-être que c'est une influence positive parce que vous dites « Ah bah oui, ça me parle. » Ou peut-être c'est négatif. « Ah bah il nous rase, il a des messages très longs, on comprend rien à ce qu'il dit. » Voilà. Mais on peut avoir une influence positive ou négative. Vous voyez ? Mais on a de l'influence. Donc le leadership, c'est de l'influence. Le leadership spirituel, c'est une influence spirituelle, biblique, chrétienne, biblique. Donc bien sûr, les anciens sont concernés. Mais si vous êtes, par exemple, responsable d'un culte de jeunesse, vous avez un leadership spirituel sur les enfants que vous enseignez. Donc ça fait un peu plus que les anciens. Et puis, peut-être vous êtes parent, père, mère, vous avez une famille, vous avez des enfants. Donc, vous avez une influence sur vos enfants. Ah là, ça élargit le champ. Peut-être que vous n'avez pas encore d'enfants, vous n'êtes pas encore marié. Mais peut-être que vous avez un groupe d'amis, des amis non chrétiens, que vous fréquentez, que vous aimez bien. Et à un moment donné, vous leur parlez de l'Évangile. Ils savent que vous êtes chrétien. Vous êtes un leader spirituel. Donc en fait, ce n'est pas que des anciens qui sont sur le devant de la scène, mais c'est tout le monde. Et Paul va nous démontrer qu'est-ce qu'un leader spirituel au travers de cette gestion de crise. C'est pour ça que j'ai insisté sur les différentes étapes. Vous voyez, Paul, il commence par écrire une lettre, il envoie Timothée, il se fait du souci, il y va, c'est dur pour lui, il revient, ça se résout pas, etc. Et là, ça va mieux, il écrit une deuxième lettre, il synthétise dans cette lettre. Et on va vraiment se régaler dans l'étude de 2 Corinthiens, parce qu'on va voir comment un leader spirituel va traiter une situation de crise. Hein ? Parce qu'on dit souvent que traverser une crise, ça forme le caractère. Alors moi, je dirais que traverser une crise, elle révèle le caractère spirituel qui est en nous. C'est-à-dire que parfois, Vous allez lire votre Bible. Vous allez développer votre vie chrétienne. Vous n'avez pas de responsabilité. Vous dites, bon, à quoi bon? Je vais voir. Hein. Quand j'aurai des responsabilités, je commencerai à lire ma Bible. En fait, non. Parce que c'est dès le départ qu'on commence à former son caractère spirituel. Et le jour où il y a une crise, le jour où on est appelé, c'est trop tard pour se former. C'est avant qu'il faut se former. Moi, quand j'ai été appelé ancien, il y a déjà bien longtemps, 25 ans, il venait d'y avoir une division d'église. Et en sous-main, je me formais, je lisais ma Bible, on faisait des études, etc., etc. Et puis le jour où il a fallu arriver, le jour où l'église s'est divisée, il a fallu nommer des anciens. Et là, on a démarré. Donc, une crise va révéler réellement ce qui est en nous. Pensez d'ailleurs à Jésus. Jésus, il a pris 30 ans pour se former. Bon, d'accord, vous me direz, Jésus est Dieu. Mais Jésus était homme. Jésus, homme, s'est formé pendant 30 ans. Et à un moment donné, quand le Père l'a appelé, il était prêt. Il était prêt, il a eu 3 ans de ministère extraordinaire. Voilà, donc, ce texte qui apparaît un peu décousu, j'espère que ça vous aidera à le regarder différemment. Et c'est pour ça que j'ai passé du temps pour ça, mais à la limite presque, je pourrais vous laisser là, puis vous lisez votre texte. Mais bon, on va quand même avancer un peu. Alors, juste un petit rappel, mais vraiment très très bref, Philippe, je ne veux pas empiéter sur ton excellent message d'il y a 15 jours. Il y a deux thématiques clés dans 2 Corinthiens. Il y a la thématique de l'encouragement et la thématique de l'épreuve, des difficultés, des afflictions. Et on sait que Paul a subi énormément d'afflictions, il a subi énormément de difficultés. Vous voyez, quand il écrit « Nous ne voulons pas vous laisser ignorer au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie », et il disait dans le passage la dernière fois, nous avons été, quasiment, il se voyait mort déjà. Donc ce thème de l'encouragement et ce thème de la difficulté, c'est un thème qui transparaît dans cette épître, et Paul commence bille en tête là-dessus. Béni soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant, le Dieu de toute consolation, lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que l'affliction par laquelle vous avez été consolés, vous puissiez consoler d'autres personnes. Il y a vraiment une chaîne de consolation. Le Père de toute consolation, il nous console quand on est presque prêt à mourir, quand on est complètement désespéré. Dieu nous console, mais il ne nous console pas juste pour nous faire du bien. Oui, il le fait pour nous faire du bien, mais il le fait pour que la chaîne continue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'épreuve que tu traverses, elle te sert plus tard, elle va te servir à consoler quelqu'un qui va traverser la même épreuve. Ça, je l'ai vérifié de plein de points de vue. Ne serait-ce qu'à titre professionnel, le nombre de personnes que j'ai accompagnées dans des repositionnements professionnels alors que j'ai dû traverser ça, c'est incroyable. Donc Dieu nous console de toute consolation afin que nous puissions consoler les autres. Voilà, ça c'est le petit rappel. Alors, il s'agit là de leadership spirituel. Et ce passage, finalement, comme je vous disais, il n'y a pas vraiment de conseils dans ce passage. Il n'y a pas d'éléments doctrinaux. C'est un peu du blabla sur lequel on passe un peu vite. Et après, Paul, après avoir commencé à parler de Dieu, le Père de toute consolation, Paul va se livrer lui-même. Il va parler avec son cœur. Et ça, c'est un des éléments caractéristiques d'un leader spirituel, c'est qu'il est authentique, il parle avec son cœur. Il n'est pas en train d'en jeter plein la vue comme les super apôtres, il parle avec son cœur. Et d'ailleurs, au chapitre 11, il dira cette phrase extraordinaire qui est vraiment inspirante pour un leader chrétien, c'est « Je suis assiégé jour et nuit par les soucis que me donnent les églises. » Je suis assiégé jour et nuit. C'est-à-dire qu'il a fondé plein d'églises et il se fait beaucoup de soucis pour les églises. Donc on voit ce cœur de berger de l'apôtre Paul. Et Paul va nous ouvrir son cœur sur les épreuves quand il dit qu'il a écrit une lettre. Il voulait écrire cette lettre dans la douleur et les larmes. Il le dit. Hein, c'est pas de gaieté de cœur qu'il a écrit ça, on le verra tout à l'heure. Et Paul était critiqué, il était énormément critiqué. Et c'est pour ça que ce passage aujourd'hui, c'est un passage qui est riche, qui va nous montrer qui est le vrai leader spirituel. Est-ce que c'est les super apôtres qui en mettent plein la vue à tout le monde? Ou est-ce que c'est Paul qui est accusé par les gens, qui a été accusé par les Corinthiens? Et Paul va trancher et il va dire le vrai leader spirituel, il est conforme à Jésus-Christ et c'est ce que lui-même va essayer d'être. Alors, on va voir trois choses au travers de ce passage. On va voir quelles sont les ressources d'un vrai leader spirituel. On verra qu'il y en a trois. Je vous cite par ailleurs cet excellent livre, un peu ancien, là, de G. Oswald Flanders, justement, qui approfondit cette question. Alors, trois ressources qu'on va voir tout de suite. Premièrement, il a une conscience claire. On va définir ce que c'est. Ça, c'est le début du passage. Nous nous sommes conduits avec sincérité et pureté, avec la grâce de Dieu, avec des intentions pures. On verra qu'il a un leader spirituel, il a un cœur de berger. Et on verra qu'il a une foi inébranlable qui s'appuie sur Jésus-Christ. Malgré les circonstances, malgré les difficultés que le leader va vivre, eh bien, il va pouvoir s'appuyer. Alors, on va lire. Voilà, on verra une conclusion. Alors, première caractéristique d'un leader spirituel, il a une conscience qui est claire. Alors, on va lire le texte. « En effet, voici notre sujet de fierté et le témoignage de notre conscience. Nous nous sommes conduits dans le monde et plus particulièrement vis-à-vis de vous, avec la sincérité et la pureté qui viennent de Dieu, non pas avec une sagesse humaine, mais avec la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons rien d'autre que ce que vous lisez et comprenez, et j'espère que vous comprendrez complètement, puisque vous l'avez déjà compris en partie, que nous sommes votre sujet de fierté, de même que vous serez aussi le nôtre, le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec cette assurance que je voulais d'abord aller chez vous, afin que vous puissiez avoir une double grâce. Je voulais passer chez vous en me rendant en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous avec l'espoir d'être soutenu par vous pour mon voyage en Judée. En formant ce projet, ai-je donc fait preuve de légèreté, ou bien mes décisions sont-elles purement humaines, de sorte qu'il y aurait en moi à la fois le oui et le non? Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous avons adressée n'a pas été oui et non. En effet, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, que nous avons prêché au milieu de vous, Sylvain, Timothée et moi, n'a pas été oui et non. Au contraire, en lui, il n'y a que le oui. En effet, toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui, c'est aussi par lui que nous disons amen à Dieu pour sa gloire. Or, celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a consacrés par son onction, c'est Dieu. Il nous a aussi marqués de son empreinte, de son sceau, et ça c'est second 21 qui traduit, et a mis l'Esprit comme un gage dans notre cœur. Quant à moi, j'en prends Dieu à témoin sur ma vie. C'est pour vous ménager que je ne suis pas revenu à Corinthe. Ce n'est pas que nous voulions dominer sur votre foi, mais plutôt nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une conscience claire? C'est quoi d'abord la conscience? Ça vient d'un mot grec, hein, comme la racine grecque, ça veut dire avec, et cire, ça veut dire savoir. Donc, c'est savoir avec, littéralement. Donc, la conscience est une faculté intérieure de savoir avec notre esprit qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste. Alors, on a tous une conscience. D'ailleurs, dans Pinocchio, la conscience s'appelle... Bon, c'est bien, il y en a qui suivent quand même. Voilà, donc, il y a la conscience. On peut avoir une conscience en étant non-chrétien, parce que c'est le système de valeurs qui nous fonde. Mais la vraie conscience, c'est la conscience qui est travaillée par la Bible. En lisant la Bible, on comprend ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Parce que malheureusement, par le péché, hein, l'orgueil d'Adam et Ève, c'est vouloir connaître le bien et le mal. C'est ce que Satan leur a fait miroiter. Ils ont cédé au péché et ils connaissent le bien et le mal. Et donc, on vit avec ça. On est fait pour connaître le bien et le mal. Mais la conscience, elle est à des niveaux variables. On peut être non-chrétien, avoir une conscience liée sur nos valeurs, ou on peut avoir une conscience qui est complètement étouffée. Même en tant que chrétien, si on arrête de lire la Bible, c'est un peu comme un réservoir qui vient alimenter notre conscience. C'est-à-dire, plus on lit la Bible, plus elle aiguise notre conscience. Quelqu'un a dit que la conscience, c'est la fenêtre qui laisse entrer la lumière. Et parfois, la fenêtre, elle peut être un peu sale. Le carreau a besoin de nettoyage. Parce que la lumière qui rentre, elle n'est pas énorme. Donc peut-être ce matin, tu es dans une situation où tu n'as pas lu ta Bible depuis un moment. Alors Dieu ne va pas te punir en enfer pour ça. Mais c'est simplement une prise de conscience encore. Tiens, ce matin, où en est ma conscience? En tout cas, Paul, en tant que leader spirituel, eh bien, il va avoir une conscience, hein, il le dit, une conscience qui est pure, sincère, sainte, qui est sous la grâce de Dieu, qui n'est pas issue d'une sagesse humaine. C'est l'apôtre Jacques qui dira « La sagesse d'en haut est premièrement pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. » Je cite le texte de mémoire. Hein. C'est Paul qui dit ça. Et il le dira dans Acte 24, quand il se présentera devant les différents rois là pour rendre témoignage, il dira « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir une conscience en permanence, une conscience pure devant Dieu et devant les hommes. » Donc c'est très important. En tant que leader spirituel, il faut avoir une conscience aiguisée, il faut être plongé dans les Écritures pour avoir un bon niveau de jugement. Parce que comme l'apôtre Paul, si je n'ai pas un bon niveau de jugement, bah, tout de suite je suis pris par les émotions. « Ah, comment il m'a manqué de respect ? Allez, dehors !» Vous voyez, je peux réagir violemment. Ou bien, je peux réagir, je fais le tapis, la carpette. Oh ben non, ben c'est pas grave, on va pas faire de conflit, on est dans le milieu chrétien, on doit s'aimer les uns les autres, donc on fait pas de conflit. On peut être dans les deux extrêmes. Une conscience de leader spirituel tel que Paul en parle, c'est d'avoir la bonne réaction par rapport à la situation. Est-ce que je dois réagir ou pas ? Est-ce que je dois confronter ou pas ? Parce que si je suis... Si j'ai une conscience mal placée, qu'est-ce que je fais ? J'interviens et puis je bouscule le gars qui me fait du tort en me disant c'est moi qui suis touché et clac, je lui mets une claque ou je le sors, vous voyez, et c'est pas la bonne situation. Inversement, je peux faire la carpette en disant ouais, mais bon, je veux pas faire d'histoire, comprenez, faut vivre en paix. D'ailleurs, Jésus a dit heureux ceux qui procurent la paix, blablabla. Donc vous voyez, et du coup, je ne vais pas traiter le problème. Alors que Paul, il a osé aller traiter le problème. Il s'est déplacé d'Éphèse à Corinthe. Hein, il n'y avait pas de blablacar, il n'y avait pas EasyJet à l'époque. Donc d'Éphèse à Corinthe, c'est un grand trajet. Il y est allé juste pour confronter quelqu'un. Donc la conscience de Paul, c'est une conscience qui se place sous la grâce de Dieu, qui dit ce qu'on doit faire, sans duplicité, sans tromperie, en étant authentique, mais en ayant du tact. En fait, c'est quoi la conscience, finalement, en résumé ? C'est vivre en accord avec ses valeurs, vivre en accord avec ce que je crois. Et si je vis en accord avec ce que je crois, ça transparaît. Et du coup, les gens ont confiance en moi. Et je suis un leader spirituel, les gens ont envie de me suivre. Parce que si je ne dis pas ça, eh ben, je vais passer soit pour un agressif, soit comme une carpette. Et les gens ne me font pas confiance. J'ai beau avoir un titre, leader spirituel, ce n'est pas un titre, c'est une posture et une attitude. Alors pourquoi est-ce que Paul parle de conscience ici, dans ce passage ? Eh bien, tout simplement, on en reparlera donc un petit peu plus tard, mais il va revenir là-dessus, hein, à la fin de notre... en 2.17, il va revenir sur cette notion de conscience. Eh bien, il en parle parce qu'il est critiqué. On lui reproche, « Ouais, mais tu as changé tes plans. » Voyez. Il le dit, je voulais d'abord aller chez vous, mais en fait, il a dû changer ses plans. Ça vous arrive jamais de changer des plans ? Nous, on est, avec ceux qui annoncent la parole ici à l'église, on est sur un planning, en fait. Alors, il y a des plannings qui se font, hein, c'est Nasser qui fait ce ministère ingrat, ô combien indispensable. Et il y a toujours des plans qui changent, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, il faut échanger, permuter. Donc, ça fait partie de la normale. Et puis Paul, imaginez, il a tout le bassin méditerranéen, toutes les églises, et il ne peut pas planifier ses trajets. Hein, je dis, il n'y a pas de blablacar et d'EasyJet, c'est très difficile de se déplacer. Donc cette incertitude, elle est, on va dire, normale pour un chrétien. Voilà. Donc pourquoi est-ce qu'il parle de conscience ? Parce qu'il est critiqué. Et quel est le problème donc posé par les Corinthiens ? C'est ça. Il l'accusait de changer d'avis, il l'accusait de tromperie, il l'accusait de manque de soins. Voyez, et donc, Paul, il doit expliquer qu'il a, lui, il n'a pas à rougir, il a une conscience qui est pure. Hein. Et donc, les fruits de cette conscience de l'apôtre Paul, il y en a quatre, on peut dire. Regardez au verset 14. Au verset 14, l'apôtre Paul nous dit, il vit au jour... comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre sujet de gloire et vous le nôtre, au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il vit dans l'attente du retour de Jésus. C'est ça, une conscience claire vit d'abord dans l'attente du Seigneur Jésus. Ensuite, les versets 15 à 18 derrière, je ne les lis pas mais ils sont ici. Hein. Dans cette persuasion, je voulais aller auparavant vers vous afin que vous ayez une seconde grâce et de chez vous passer en Macédoine, puis revenir chez vous et me faire accompagner par vous en Judée. Il prend au sérieux la volonté de Dieu. C'est-à-dire que Paul cherchait en permanence la volonté de Dieu, mais comme vous le savez, la volonté de Dieu, vous n'avez pas le matin un fax qui vous dit, bah tiens, un fax de la part de Dieu en disant, tiens, tu dois faire ça et ça. La volonté de Dieu, pas facile à trouver. Il faut discerner, il faut parfois tâtonner, on ne sait pas, on a des doutes parce qu'on est humain. Mais Paul essayait en tout cas, en permanence, de chercher la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, parfois, elle est, je ne dirais pas capricieuse, parce que Dieu sait exactement ce qu'il doit faire, mais parfois Dieu doit nous orienter. Paul, par exemple, nous explique qu'à un moment donné, il était en Turquie, et puis il était en Phrygie, il voulait passer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le permit pas. Finalement, il a zigzagué en Turquie, et à un moment donné, il est arrivé à Troas, et il a eu la vision du Macédonien. Donc vous voyez comment la volonté de Dieu se fait. Je tâtonne, et puis à un moment donné, Dieu m'oriente, il ferme des portes, il en ouvre d'autres, le Saint-Esprit empêche, etc. Et finalement, ça c'est le fruit d'une bonne conscience. Quand je suis ancré dans Dieu, Dieu peut me parler et je peux prendre au sérieux la volonté de Dieu. Versets 19 et 20, la bonne conscience, elle glorifie Jésus. Car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, Sylvain et Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que le oui. Toutes les promesses de Dieu sont oui en lui. Donc, la bonne conscience, c'est le troisième point, glorifie Jésus. Premier point, hein, la bonne conscience vit dans l'attente du retour de Jésus. Deuxièmement, elle prend la volonté de Dieu au sérieux. Troisième point, elle glorifie Jésus. Paul ne manipulait pas la parole de Dieu. Son oui était oui. Et là aussi, en tant que leader spirituel, si on dit oui, mais, bof, machin, à un moment donné, il faut trancher. Parce que Jésus a dit que votre oui soit oui. Tout le reste, ça vient du malin. Si tu commences à hésiter, si tu commences à dire, ouais, mais je jure au nom de ma mère, mon père, je ne sais pas quoi, c'est pas un vrai oui. Donc c'est ça la bonne conscience. Elle glorifie Jésus, c'est un oui. Parce que Jésus est venu, et ça a été le oui de Dieu aux promesses de Dieu. Et enfin, la bonne conscience, quatrième point, Elle dépend en permanence, et ça c'est la fin du passage, elle dépend en permanence de la volonté de Dieu. Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu, il nous a marqué de son sceau et mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Donc, on a l'Esprit de Dieu, lorsqu'on est un chrétien authentique, on a l'Esprit de Dieu, on est marqué de son sceau, on a les promesses, on a la vie éternelle, et on vit dans la dépendance du Saint-Esprit en veillant à ne pas l'attrister. Et Paul, ce qui lui importait, c'était de ne pas attrister l'Esprit de Dieu. Il s'en fichait, à la limite, entre guillemets, d'attrister les Corinthiens, parce que c'est pour leur bien qu'il les a attristés. Mais il ne voulait pas attrister le Saint-Esprit. Voilà, donc le premier point, c'est la conscience qui est claire. Le deuxième point, et j'avance parce que le temps passe, je ne vais pas avoir le temps de lire le texte, malheureusement. C'est le cœur de berger. Donc le leader spirituel a un cœur de berger. Ça, c'est les versets donc 1 à 11 du chapitre 2. Il s'agit donc de l'attitude. Il s'agit de l'attitude de Paul vis-à-vis de cette crise, vis-à-vis de cette personne. Comme je vous ai dit, on ne sait pas qui a attristé Paul. Mais on voit que Paul réagit comme un berger. Il réagit comme un berger, et le berger, il y a trois caractéristiques que nous démontre Paul dans ce texte. Première caractéristique, l'amour du berger, le cœur compatissant du berger, va penser aux intérêts des autres. C'est-à-dire qu'il aurait pu très bien esquiver ce problème en disant « oui, je ne vais pas faire d'histoire ». Combien, moi j'ai connu des situations personnelles que je ne peux pas vous décrire parce que c'est sous le sceau de la confidentialité, mais dans l'Église, des situations où il n'y a pas eu d'intervention, et la chose a pourri. Parce que ce n'est pas facile d'intervenir, ce n'est pas facile de confronter. Ça demande un travail, c'est un vrai travail. Moi, j'ai accompagné des leaders d'Église, des responsables d'Église, dans ces éléments de confrontation. Je peux vous dire, c'est dur, parce qu'on n'ose pas. Même quand il y a quelqu'un, je me place à côté de lui, on travaille la situation, on répète la confrontation, et même c'est difficile. Et pourtant, Proverbe 27,6, vous connaissez par cœur ce texte, « Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité, mais un ennemi multiplie les embrassades. » Donc quand j'esquive la confrontation dans l'Église, eh bien finalement, je ne rends pas service ni à l'Église, ni à la personne qui est concernée. Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité. Quand j'interviens pour confronter, alors pas comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, bien sûr, mais quand j'interviens pour confronter, eh bien c'est pour prouver mon amour à cet ami ou à cette personne. Et voyez Paul au verset 4, voyez ce qu'il écrit, ça vaut vraiment le coup de lire le verset 4. C'est dans une grande affliction, le cœur serré avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, non pour vous attrister, mais pour vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Il dit ça par rapport à cette fameuse deuxième lettre qu'on ne connaît pas, qui est entre 1 Corinthiens et 2 Corinthiens. Donc vous voyez comme il prend des gants. Il dit, mais je vous ai écrit, mais j'ai un amour extrême pour vous, je suis tellement embêté de vous écrire, je suis complètement affligé, je suis dans la détresse. Le mot affligé, c'est un mot très fort. Hein, il y a à peu près 10 termes en grec pour exprimer le mot souffrance et affliction. Paul va utiliser 5 des 10 termes possibles en grec dans cette lettre aux Corinthiens. Donc c'est vraiment le cœur aussi, l'affliction et la souffrance. Et vous voyez ce que Paul écrit, je trouve c'est vraiment extraordinaire. Parce que confronter, c'est difficile. Et pourtant, c'est nécessaire. Vous voyez, Paul, il aurait pu faire valoir son autorité. Il aurait pu dire, ouais, mais moi je suis apôtre, j'ai fondé l'Église, vous devez m'obéir, c'est pas normal qu'il y ait des troubles. Moi, j'aurais réagi comme ça. Mais Paul, il écrit au verset 4, c'est dans une grande affliction, le cœur angoissé avec beaucoup de larmes que je vous écris. Moi, je trouve que c'est extraordinaire, le cœur de berger de Paul ici. Et au verset 24, regardez ce qu'il va dire au verset 24. J'ai pas la bonne référence. C'est à un moment donné, il a préféré. C'est quand il écrit qu'il a préféré. Ça doit être 14. Non. Quand il dit j'ai préféré différer ma visite. Je me suis trompé dans le verset. J'ai préféré différer ma visite sur vous. J'ai préféré ne pas vous rendre service. Bon, je n'arrive pas à le retrouver. C'est 1.24. Voilà, c'est 1.24. Voilà. Non, c'est pas. C'est chapitre 1. Alors, tu as la référence ? Verset 23. C'est pour vous. Voilà, merci. C'est pour vous ménager que je ne suis pas allé à Corinthe. Donc à un moment donné, Paul, avec son cœur de berger, il se dit, est-ce que j'y vais pas. Et il décide, j'y vais pas, mais c'est pour vous ménager. Pour pas, peut-être, ma présence peut-être aurait créé un conflit, alors il a préféré prendre le temps d'écrire. Vous voyez la stratégie. Il y a vraiment une stratégie pastorale là derrière. Mais il n'a pas lâché le morceau, parce qu'il y avait un problème à Corinthe. Et moi j'aurais dit, oh d'accord, hein. Moi j'ai fondé l'Église, j'ai fait mon boulot, bah ils ont qu'à se débrouiller avec leur salade. Hein. Vous n'auriez pas réagi comme ça? Bah Paul, il n'a pas lâché le morceau. Donc la question, l'amour pense d'abord aux intérêts des autres. L'intérêt de l'autre, c'est comment je dois intervenir au mieux dans l'intérêt des autres. Et tout seul, peut-être on n'a pas la réponse. C'est pour ça qu'il y a un collège d'anciens. Parfois, les anciens discutent en disant, bon, il y a ça, qu'est-ce qu'on fait? On intervient comment? Alors, il y a toutes les sensibilités. Il y en a qui sont interventionnistes, style éléphant dans un magasin de porcelaine. D'autres qui sont plus conservateurs. Bon, on va attendre. Vous voyez? Et donc, la collégialité, c'est pour ça que c'est tellement important. Parce que tout seul, on ne peut pas y arriver. Donc, l'amour pense d'abord aux intérêts des autres. Deuxième point, l'amour cherche à faire grandir les autres. Le but de l'intervention, c'est pas de casser la personne. C'est justement de le faire grandir. Parce que, alors, il y en a qui disent, par exemple, il y a des commentateurs qui disent que la personne qui a causé le problème, c'est le fameux fornicateur de 1 Corinthiens 5, celui qui couche avec la femme de son père. Pourquoi? Parce que Paul avait demandé à l'Église d'intervenir, hein, de le livrer à Satan, de le discipliner, d'accord? Et peut-être que c'est lui. Peut-être que c'est lui. Mais l'objectif, c'est faire grandir la personne. Donc cette personne qui, en fait, couche avec la femme de son père, il se fait du tort à lui-même. Parce qu'il est contraire à la volonté de Dieu, il va s'attirer à terme les malheurs. Parce qu'on peut pas, on peut pas désobéir à la parole de Dieu et espérer mener une vie bénie. Et d'après les versets 2 à 6 de 2 Corinthiens 2, apparemment, la personne a été disciplinée par l'Église. L'Église a écouté Paul. Paul avait dit qu'il faut discipliner la personne. Alors, on ne sait pas si c'est le fornicateur ou une autre personne qui s'est opposée à Paul. En tout cas, l'Église a discipliné. Et l'Église a écouté Paul. Et là, on revient à ce que nous dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 12. Hein. La discipline, c'est un signe d'amour. Vous lirez Hébreux 12, 10. Hein. Dieu nous discipline pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi éprouvés, un fruit paisible de justice. C'est Hébreux 12, chapitre, verset 10 à 12. Donc la discipline, c'est quelque chose, c'est un signe d'amour. Ce n'est pas partagé aujourd'hui, bien sûr, par les pédagogues modernes. Il ne faut pas, surtout pas toucher la personne. Et la discipline d'Église, comme je disais tout à l'heure, ben, c'est pas à la mode. On préfère mettre... au nom de l'amour, on va mettre la poussière sous le tapis. Mais je peux vous garantir que ça revient en boomerang. Et moi, j'ai vu des églises se diviser, plusieurs, parce que ça revient en boomerang. Il y a des choses qui n'ont pas été traitées, et tout ce qui n'est pas traité, ça revient plus tard. La paix à tout prix, c'est pas un principe biblique. Hein, il y aurait tout un message à faire, je pense que je le ferai un jour, si j'ai un message libre, sur le verset de Jésus, « Heureux ceux qui procurent la paix ». Parce que là, il y a beaucoup de choses à dire sur « heureux ceux qui procurent la paix ». C'est quoi la paix? Et puis, Jésus dira aussi « heureux les doux ». C'est quoi le doux? Hein? Le débonnaire. On verra plus tard. Donc, discipliner, c'est pas facile, mais l'amour cherche à faire grandir les autres. La discipline a pour but de faire grandir. Et quand on a un cœur de berger, comme un leader spirituel, on cherche à faire grandir les autres par derrière. Hein? C'est ce qui sous-tend l'intervention de Paul. Et puis, le troisième point, eh bien, l'amour pardonne et encourage. C'est-à-dire qu'une fois que la sanction, la discipline a été exercée, eh bien, il faut reconstruire derrière. Il faut reconstruire. J'aime bien, je pensais à ça, là, pour ceux qui s'intéressent au rugby, les règles du rugby, elles changent toutes les années. On arrange, je vois qu'il y a un rugbyman là. Et notamment, il y a une règle qui est apparue il y a quelques années, c'est que le plaqueur, en fait, une fois que la personne est plaquée, il doit lâcher. Le plaqueur lâche la personne plaquée. C'est obligé. Vous ne pouvez pas immobiliser la personne et puis la tenir pendant 30 secondes. Vous avez obligation de lâcher, sinon vous êtes pénalisé. Ben, c'est un peu ça. Quand la sanction est disciplinée, quand elle est administrée, il faut reconstruire. Ce qui fait que la discipline, ce n'est pas une vengeance. Tiens, Paul, il a été offensé par le fameux Corinthien. Ah, je vais lui faire payer, tiens, jusqu'au dernier souffle. Non, ce n'est pas ça. C'est je le fais grandir. Et ensuite, je le lâche, je le fais grandir. Quelqu'un a dit que le pardon, c'était le remède pour les cœurs brisés. Et il faut savoir, donc, pardonner. Et c'est ce que Paul dit ici. La personne qui a offensé Paul a été offensé par une personne. L'Église, au départ, elle était qu'un cara, puis à un moment donné, ils ont compris. Ah oui, c'est vrai, il a offensé Paul. Et donc, ils l'ont discipliné. Et là, Paul, qui est lui-même l'offensé, revient les voir en disant, mais il faut que vous lui pardonniez. C'est-à-dire que lui, il est le premier à avoir pardonné. Parce que faut pas oublier que lorsqu'il y a une offense comme ça, qui est-ce qui est le premier offensé? C'est qui le premier offensé lorsqu'il y a une offense et un péché? C'est Dieu lui-même. Bien sûr, c'est pas... Bien sûr, l'apôtre, il est attristé par la conduite de ce Corinthien. Mais au final, c'est Dieu qui est attristé. Donc on pêche contre le Seigneur. David, quand il se repent de son péché avec Bathsheba, qu'est-ce qu'il dit dans le psaume 32 et le psaume 51 ? J'ai péché contre toi seul, de sorte que tu seras juste dans ta sentence. Il pourrait effectivement s'adresser à Bathsheba, il pourra s'adresser au peuple, il pourrait s'adresser à Uri, il est mort malheureusement. Il pourrait s'adresser à Nathan, mais il s'adresse à Dieu parce qu'il sait qu'il a péché contre Dieu. Ça aussi, c'est un signe de maturité spirituelle. C'est que mon péché, il est avant tout contre Dieu. Et au verset 11, l'apôtre Paul, eh bien, va dire, on pardonne dans l'intérêt de l'Église pour ne pas laisser Satan prendre l'avantage. Combien d'Églises laissent Satan prendre l'avantage par un esprit de non-pardon? C'est un peu comme un coin qui va s'insérer dans le bois et qui va le faire éclater. Parce que Satan est à l'affût. Voyez, le Saint-Esprit qui anime l'apôtre Paul, il est appelé le consolateur. Et comment il est appelé Satan ? L'accusateur, exactement. Satan, c'est l'accusateur. Il est là pour blâmer, il est là pour pousser au désespoir. Donc quelqu'un qui est affligé, c'est pour ça que Paul demande à l'Église, il faut lui pardonner, parce qu'il a déjà reçu suffisamment, il a été attristé, il a été blâmé par l'Église, il a été discipliné, il a payé son dû, et de toute façon, c'est Jésus qui a payé pour lui, au final. Donc il faut lui pardonner. Et Paul, c'est là qu'on voit le souci qu'il a de l'Église de Corinthe. Il leur dit, mais si vous ne faites rien, Satan va rentrer un coin, il va diviser l'Église. C'est vraiment remarquable comment Paul a pu résoudre ce problème. Il a pu résoudre ce problème parce qu'il avait une conscience claire, il avait un cœur compatissant et il avait un amour qui pardonne et qui encourage. Voilà ce que c'est qu'un leader spirituel. Le troisième, ben, je n'ai pas du tout le temps de le traiter parce que j'ai plus beaucoup de temps. C'est la foi inébranlable de l'apôtre Paul. Alors, il nous parle du triomphe. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul a une foi inébranlable ? Parce qu'il est conscient de sa position. Il est conscient de sa position et sa position, c'est qu'il est un esclave de Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Vous savez que le triomphe romain, c'était une procession d'un général vainqueur. Il va qui paradait à Rome avec des esclaves qui sont enchaînés là. Il ramenait un peu les captifs de sa guerre de conquête. Eh bien, l'apôtre Paul prend cette image pour dire « Moi, je suis un esclave de Christ ». Et d'ailleurs, c'est intéressant les lettres de Paul parce que dans les premières lettres qu'il a écrites, il se présente comme Paul, apôtre de Jésus-Christ. Et quand vous regardez les dernières lettres de sa vie, il dit Paul, serviteur de Jésus-Christ. Et le mot serviteur en grec, ce n'est pas le diakonos, c'est le doulos. C'est l'esclave, c'est celui qui n'a aucun droit. Paul est l'esclave de Jésus-Christ. Et le véritable leadership chrétien, alors on enlève la chaîne, parce qu'en Jésus, on n'est pas enchaîné, on est libéré de nos chaînes. Paul se définit comme un esclave de Jésus-Christ qui, un jour, va triompher en lui. Et il regarde à ça, il se dit, au fond, j'ai été offensé par ce Corinthien, mais ça m'importe peu parce que je suis un esclave de Jésus-Christ. Celui qui a été offensé le plus, c'est Jésus, qui a été méprisé et abandonné des hommes. Il l'a lu, François, tout à l'heure dans Ésaïe 53. C'est lui qui a été abandonné. Paul, il a juste été offensé. Et moi, parfois, je suis offensé par un chrétien et je réagis violemment et je dois m'en repentir devant Dieu. Et Paul nous rappelle qu'on est esclave de Jésus-Christ. Alors, vous voyez, le leadership spirituel, c'est compliqué. Et Paul, d'ailleurs, va le dire au verset 16. Regardez ce qu'il dit au verset 16 du chapitre 2. « Et qui est suffisant pour ces choses ?» Moi, quand je regarde le programme d'un leader spirituel, je me dis, je n'y arriverai pas. Qui est suffisant? Pas moi, en tout cas. Mais au chapitre 3, et ça, on le verra donc la fois suivante, au chapitre 3, Paul va dire, notre capacité à être leader spirituel vient de Dieu, au verset 5. Chapitre 3, verset 5. Qui est suffisant pour ces choses? Paul pose la question et il répond au chapitre 3. C'est ce qu'on verra pour la prochaine fois. Qui est suffisant pour ces choses? Notre capacité vient de Dieu. Alors en conclusion, attention aux super apôtres. Il y en a beaucoup aujourd'hui des super apôtres qui sont présents partout, sur les réseaux sociaux, sur les blogs. Ils ont une apparence d'évangile. Ce qu'ils disent, ça peut être vrai, parce qu'ils citent la Bible. Quand on cite la Bible, ben c'est vrai. Mais attention aux super apôtres. Pensez à l'apôtre Paul, petit, abandonné, méprisé, mais véritable leader spirituel. Trois ressources. Il avait une conscience claire parce qu'il était fondé sur la parole de Dieu. Ensuite, il avait un cœur de berger. je vous conseille ce livre d'Eugene Peterson sur, hein, c'est un Américain vraiment remarquable, c'est pas parce qu'il est Américain, mais il est remarquable, amen. Et puis une foi inébranlable qui s'appuie sur les promesses de Jésus, qui sont oui et amen. Voilà, excusez-moi pour le retard, ça a été un peu long, mais passage passionnant sur le leadership spirituel. Bonne journée à tous.